Aujourd'hui, on est à Cannes et on a le plaisir de recevoir le scénariste et réalisateur Antoine Chevrolier pour nous parler de son premier long-métrage, La Pampa, qui était présenté à la Semaine de la Critique. La tradition oblige, avec sa réunion, on demande toujours à nos invités de pitcher le film qu'ils présentent. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que raconte votre premier film, La Pampa ?
Bonjour à toutes et à tous, déjà. Et merci de m'accueillir. Et donc La Pampa, moi je suis nul en pitch, donc je vais essayer de le faire, mais c'est une histoire d'amitié entre deux jeunes adultes qui quittent l'enfance. L'un a un secret qui donc cache à l'autre, et puis à la découverte de ce secret, ça va faire imploser un tout petit peu tout l'environnement social du village dans lequel ils grandissent, quoi.
Ok, très bien. Moi, je voulais revenir sur les décors et les repérages qui ont eu lieu, parce que j'ai cru comprendre que ça avait été tourné sur les lieux de votre enfance, là où vous avez grandi, donc pas très loin de Angers. Et c'est vraiment des décors qui sont très importants dans le film, qui, notamment l'hôpital, le terrain de motocross, etc. Ça a infusé énormément de textures au film, énormément d'atmosphère. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'était passé, si c'était des lieux que vous aviez déjà en tête dès l'écriture, si vous aviez repéré ça plutôt après, comment ça s'est passé ?
Oui, en fait, c'est des lieux que qu'on avait dès l'écriture avec Bérénice Bocquillon et Faïs Hagen, les co-scénaristes du film. On est allé sur place pour que, effectivement, un peu éprouver ce qui pouvait être des espèces de souvenirs, de sensations de mon enfance. Mais il s'avère que moi, ma famille est encore sur place, ma nièce était sur place encore et tout. Donc, en fait, oui, on a écrit en pensant à cet hôpital, par exemple, puisque c'est ce dont vous parlez, l'hôpital qu'on appelait l'hôpital des affectés. Bon, voilà, il y avait évidemment l'aspect graphique qui nous intéressait, mais il y avait aussi ce que ça racontait socialement. Évidemment, l'abandon de ce genre d'endroit. Alors, c'est très subtil, c'est très souterrain, c'est raconté par un plan ou deux, mais c'était aussi toujours dans le souci de raconter un tout petit peu les différents types de violences que subissent ce genre de territoire. Et le terrain de cross, en fait, donc la Pampa, c'est un terrain de cross qui existait, moi, quand j'habitais là-bas, qui existe toujours, et qui a été toujours une sorte de fantasme comme ça. Alors, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était un fantasme autour de la pratique sportive. Et en fait, quand j'ai déconstruit plus tard, je me suis rendu compte que c'était plutôt les rapports, les codes et les rapports entre tous les gens autour de la pratique du motocross, évidemment, tout le rapport au virilisme et à la masculinité toxique. Je m'attardais plus, gamin, sur comment se confronter toutes ces personnes que sur, finalement, le sport en tant que tel, quoi.
Oui, et d'ailleurs, les personnages vont être aussi amenés à déconstruire un petit peu ça. Enfin, on sent qu'ils baignent dans cette espèce de monde de virilité, mais qu'ils vont forcément essayer de trouver une manière d'en sortir. Et pour les décors aussi, pour revenir à ce que vous disiez, je trouve qu'on ressent que les personnages connaissent ces lieux aussi depuis très longtemps, donc peut-être que c'est aussi le côté familier que vous aviez, vous, dès l'écriture, qui se ressent beaucoup.
C'est très juste. Il s'avère que, en fait, tout ce qui est lié au rapport au décor pour les comédiens, moi, je répète toutes les scènes, on les répète en fait sur les décors.
Ok.
Donc en fait, on les répète dans un premier temps à Paris, pour que toutes les actrices et acteurs aient en bouche le dialogue et puis qu'ils se l'approprient, évidemment. Et donc on refait une passe de scénario avec leur confort à eux du texte. Et puis ensuite, on va sur les décors et pour qu'ils aient justement cette familiarité, ouvrir un tiroir, se poser, enfin... On se pose à des endroits qui peuvent être incongrus des fois quand on est chez nous ou quand on est dans... Moi, je voulais que ça transpire un tout petit peu ça pour toutes les comédiennes et les comédiens, qu'il y ait quelque chose vraiment de naturel, quoi. Ouais. Que ça puisse transpirer le plus possible à l'écran, quoi.
Bah, ça se ressent énormément.
Merci beaucoup.
Pour revenir un petit peu sur votre parcours, c'est votre premier long-métrage, mais c'est pas vraiment votre première expérience en tant que réalisateur, parce que du coup, vous avez réalisé des épisodes du Baron Noir, même la série Ousekin. Comment on passe de l'un à l'autre, et puis peut-être quelles sont les différences pour vous en tant que réalisateur d'arriver avec du coup un premier long-métrage qui est vraiment le vôtre par rapport à une expérience où vous avez par exemple peut-être été plus vraiment dans le découpage et dans des questions qui sont plus vraiment d'ordre de la réalisation sans forcément un attachement particulier, disons, au projet.
En fait, moi, ma première volonté quand j'étais petit de raconter des histoires, elle passe par le cinéma. Et en fait, c'est un concours de circonstances qui m'a amené à réaliser des séries. Mais j'ai pas fait d'études, j'ai pas eu la chance d'avoir accès à même une autorisation. Vous voyez ce que je veux dire ?
Légitimité.
Une légitimité. Et je me sens toujours d'ailleurs pas très légitime. Mais anyway, en tout cas, voilà, il y avait quelque chose, c'est passé par le cinéma dans un premier temps.
Ouais.
Et puis, le mouvement, que ce soit sur le Bureau des gens de Baron Noir ou Sekine ou La Pampa, le mouvement pour moi elle-même, que ce soit à l'endroit du découpage ou à l'endroit du montage, ou, enfin, je ne différencie aucunement les formes. J'attaque les sujets, je crois, le même désir, et voilà. La grosse différence, c'est que le temps de la série n'est pas le même que le temps du cinéma.
Okay, ouais.
Et ça, c'était hyper agréable d'avoir. Enfin, j'ai commencé par la série, donc il y a forcément un rapport au temps du tournage, mais de tout, même de la post-prod, de tout, qui est excessivement. Enfin, il y a une célérité d'exécution. On doit avoir une célérité d'exécution. Au cinéma, ce temps-là, il est vraiment autre, quoi. Et ça, c'était effectivement très très agréable.
Et c'était important pour vous que ce récit de La Pampa soit votre premier long métrage ?
En fait, j'avais un autre premier film avant,
ouais.
Et puis qui était moins autobiographique, même si le film n'est pas autobiographique, à part à l'endroit des sensations, hein, mais qui était moins autobiographique. Et puis le film s'est pas fait, et donc quand on a écrit La Pampa, je me suis rendu compte que j'ai basculé dans le cliché du premier film. Très intime sur mes terres, enfin sur nos terres. donc voilà.
C'est que finalement, même inconsciemment, il y avait peut-être quelque chose qui devait s'exprimer.
Grave,
à ce moment-là.
Grave.
Et j'ai cru comprendre, vous aviez dit lors de la première qu'il y avait un gros travail de casting, notamment casting sauvage, parce que vous collaborez à la fois avec un acteur que vous connaissez déjà de Ousekin, mais des acteurs que peut-être vous ne connaissiez pas avant, même j'ai cru comprendre que c'était leur premier film pour certains. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce processus-là de casting qui ont mené à ces acteurs qui sont par ailleurs merveilleux dans le film?
Merci beaucoup. En fait, donc, on va. Saïd, j'avais travaillé avec lui sur Ousekin,
ouais.
Il jouait Malik Ousekin.
Ouais.
Donc en fait, je le connaissais. Il s'avère qu'on est devenus amis suite au tournage, suite à toute l'aventure Ousekin. Et je ne sais pas pourquoi, assez bêtement, en fait, moi, je m'interdis de me dire que les actrices ou les acteurs avec qui je travaille et avec qui je deviens ami, je veux les mettre dans mes films sous prétexte qu'ils sont amis, en fait. Enfin, bon, voilà, c'est con. Et donc, du coup, je ne m'étais vraiment pas autorisé à penser à Saïd en Willy. Et on galérait, on n'arrivait pas à trouver, avec Alicia Cado, la directrice de casting, on n'arrivait pas à trouver notre Willy. Puis à un moment donné, Nicolas Blanc, le producteur, m'a dit: pour qui t'as du désir, pour qui t'as envie de filmer pendant toute cette trajectoire, quoi. Je dis: ouais, j'ai le sentiment de ne pas avoir été au bout de ce que je souhaitais avec Saïd sur Ousekin. Il me dit: bah vas-y, viens, on passe. Et en fait, il y a eu ce rapport très immédiat, comme Ousekin, il est rentré dans la pièce, il a dit trois phrases et c'était ouf, quoi. Il avait vraiment ce rythme, ce battement que j'avais en tête, quoi.
Ouais.
Cette musique un peu, quoi. Et puis alors pour Jojo, pour Amaury, classique process de casting sauvage, d'annonce à droite à gauche, et puis il est arrivé, il avait ce port de tête, cette assurance, ce rapport aux gens, aux choses, qui était très puissant, quoi.
Ouais.
Il a une cinégénie incroyable, et donc ça a été aussi assez évident très vite. On a beaucoup travaillé, alors évidemment un rapport technique, parce que la moto et tout ça, mais aussi sur la corporalité, sur la diction, enfin voilà. On a travaillé. Damien, j'avais très très envie de lui, donc je lui ai fait part de mon désir de travailler avec lui, et ça s'est fait assez classiquement. Florence Janas, incroyable rencontre, pareil. Enfin bon, je ne vais pas faire tout le casting, mais ça s'est fait somme toute assez classiquement. Puis ensuite, on a tout répété, tous ensemble.
Okay.
On a tout répété à Paris, toutes les scènes du film, pour voilà, qu'ils soient le plus à l'aise, le plus confortable possible avec leur ligne de dialogue. Puis ensuite, on a tout répété à nouveau dans les décors.
Bon, d'accord. Voilà. Et par rapport justement à cette amitié qui est très forte entre les personnages de Jojo et Willy, est-ce qu'il y avait une préparation particulière de duo? Enfin, j'imagine que vous avez aussi cherché les acteurs pour leur alchimie aussi, en tant pour qu'on croie à cette amitié.
Tout à fait, tout à fait. C'était si on ne croyait pas à ça, il n'y avait pas de film, en fait. Et en fait, souvent, en tout cas, j'ai le sentiment des fois, dans les trucs d'amitié, il y a quelque chose qui n'est pas sculpté. En tout cas... Et quand je dis il y a quelque chose qui n'est pas sculpté, c'est beaucoup à l'endroit du corps. C'est-à-dire que ta meilleure amie ou ton meilleur ami, il y a quelque chose on peut s'allonger sur elle ou sur lui, on peut lui tenir la main, enfin vous voyez, enfin, des espèces de micro détails comme ça, et je voulais que ça transpire, que le film transpire en fait cette proximité. Donc en fait on a fait un truc, c'est que quand le casting était fait, qu'on avait répété, Saïd et Amaury, on les a envoyés à Longuet Jumelles dans mon bled, enfin dans le bled où se passe le film. On leur a pris juste un billet de train et ils se sont débrouillés pendant 3 jours. Ils ont été sur les décors sans que je leur demande, l'hôpital
les
a affectés.
Que tous les deux, du coup.
Que tous les deux.
D'accord.
Et c'était fou parce qu'ils ont tagué plein de trucs à des endroits qui leur appartenaient et qu'on a découvert après nous en venant tourner. Et ils se sont liés d'amitié, c'est devenu des vrais amis, du coup, tous les deux. Et du coup, ils ont dormi ensemble. Enfin, et ces 3 jours, ils sont revenus et ils étaient là, quoi. Leur amitié était là et la manière dont Saïd posait la main sur Amaury, c'était trop beau à voir, quoi. Hyper émouvant.
C'est génial. Et peut-être une question par rapport, vous avez parlé de vos co-scénaristes, puisque vous avez écrit du coup à trois. Comment s'est passée cette collaboration et peut-être pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous entourer de ces deux personnes en particulier, notamment si je ne dis pas de bêtises, il y en a une qui est écrivaine en plus, donc d'avoir une autre approche peut-être encore du scénario.
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une rencontre classique avec Bérénice quand il a fallu développer le film, ça a matché immédiatement et en fait on a commencé à écrire, on est partis tous les deux dans la région pour lui montrer un tout petit peu les choses, les sensations, les trucs, et puis j'ai envie de dire assez classiquement, on a creusé comme ça le scénario dans un premier temps à deux. Et puis en parallèle, moi je développais Oussekine, la série, et où j'avais rencontré Faïza, j'avais lu ses livres et j'étais, enfin pour moi c'est une des plus grandes romancières françaises vraiment, et je le dis pas parce que je travaille avec elle, c'est vraiment quelqu'un, c'est une plume incroyable. Et donc on avait travaillé ensemble sur Oussekine, ça s'est excessivement bien passé. Et puis à un moment donné, on était un peu au bout de quelque chose, Bérénice et moi. Donc j'ai proposé à Faïza de venir nous accompagner sur le dernier trajet en fait d'écriture. Et Faïza est arrivée et voilà, elle a vraiment fait un travail extraordinaire dans la continuité de ce qu'on avait fait avec Bérénice. Et voilà, elle a cette capacité. Là, j'ai un autre projet où je travaille aussi avec quelqu'un qui écrit des romans. Et en fait, je constate en fait qu'ils ont cette capacité d'accélération dans l'écriture, c'est fou quoi. Et puis de précision, moi j'aime beaucoup quand les choses, quand il y a un détail de cheveux dans le scénario ou un détail de vestimentaire ou autre. Et en fait, Faïza, elle a vraiment ça quoi. C'était trop bien. Je suis fan de Faïza.
Ça amène énormément de relief, j'imagine, plutôt que quelque chose de très dramaturgique qui peut être un peu trop carré. Des fois d'avoir du coup peut-être des écrivains qui ont la liberté d'aller dans le détail aussi.
Tout à fait. Et puis une écriture plus imagée.
D'accord.
Tu voyais ce que je veux dire. Il y a un truc aussi qui d'un seul coup, même si c'est un scénario et ça peut être une écriture un peu âpre, par un adjectif, par une formule, qui est d'un seul coup quelque chose. Ah ok, la sensation, je l'ai. Et du coup, je comprends un peu mieux ce que traverse le personnage.
D'accord. Moi, j'ai beaucoup pensé à un autre film en voyant La Pampa, qui est Close de Lucas Dont. Je ne sais pas si vous aviez, j'avais la curiosité de savoir si vous l'aviez vu du coup.
Non.
Non, toujours pas.
Non, pas du tout. J'ai pas pris le temps.
Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas, j'ai adoré Close. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau qui se crée parce qu'on a l'impression que c'est presque le grand frère de Close, qu'il y a une espèce de continuité. Mais du coup, je voulais savoir s'il y avait d'autres
films. Le petit frère.
C'est parce que je dis ça parce que grands frères, qui sont plus grands, dans Close, ils sont plus petits, c'est pour ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres films dont vous vous êtes inspiré ou en tout cas que vous avez vu qui ont peut-être infusé l'écriture de La Pampa.
Si, bien sûr, il y avait des choses à l'endroit de la forme, à l'endroit du fond, si on doit y aller en mode ça devient un classique, mais André Arnold évidemment, évidemment Boys Don't Cry, l'école russe beaucoup pour la forme, quand je dis l'école russe, ça va de Vertov à Tarko, ça va un peu à plein d'endroits. C'est toujours curieux ces questions autour des références parce qu'en fait, quand on est en interview, enfin moi à titre perso, ça vient pas. Alors que je dis bah oui, non, mais en fait, c'est évidemment ça. Mais c'est un peu à cet endroit-là, quoi.
Bon, du coup, j'ai peut-être posé une dernière question, peut-être un peu difficile aussi, qui viendra peut-être après. Il faudra nous réécrire si vous trouvez les réponses. On vous avait vu assez ému, du coup, comme c'est à la semaine de la critique, quand vous avez fait la projection. Et j'imagine que c'est une émotion particulière, encore une fois, quand c'est un premier film. Donc, je me demandais si vous aviez des premiers films de réalisateurs ou réalisatrices que vous aimez particulièrement ou qui vous ont marqué, tout simplement.
Ouais, moi j'ai adoré After Sun.
Ouais.
J'ai vraiment été bouleversé par After Sun.
Oui, il est très très beau ce film.
Pour parler des films récents, quoi. Ouais. J'ai vraiment été... bouleversé, quoi. Bouleversé. Et puis, je crois que c'est un premier film, et il y a une réalisatrice russe qui avait fait un film qui s'appelait L'Ascension, en 81, qui avait eu, je crois, l'ours d'argent ou l'ours d'or.
D'accord.
Et L'Ascension, c'est pareil, ça m'a bouleversé. C'est un film, et je crois que c'est un premier film, mais
j'espère pas. On ira vérifier. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner la date de sortie, si vous l'avez, de
La Pampa? Figurez-vous que je ne l'ai pas encore.
Ça marche,
ouais.
Peut-être que d'ici la sortie de cet épisode, ensuite, on pourra retrouver, une fois qu'il y aura une date. En tout cas, on encourage déjà tout le monde à aller voir La Pampa, et merci beaucoup pour
cette interview. Merci à vous, merci beaucoup.
Merci.